Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
David Amselem est né à Paris, dans le 13e arrondissement. Quand il avait 6 ans, il voulait devenir Gilles Vigneault ou Yehudi Menuhin, dont il a fini par emprunter symboliquement le violon. David a placé la musique et la pratique assidue du violon au rang d'une passion presque religieuse, qui, même si elle exige beaucoup de travail solitaire, lui permet d'innombrables rencontres passionnantes. Il est également professeur d'éducation musicale à Paris depuis 21 ans. David enseigne à mi-temps, mais vit la musique à plein temps, et son côté etc. il le partage au sein de trois entités toutes musicales. Il y a Just for Cab, un orchestre de jazz et de musique tzigane. Il y a également l'Amselem Swim Klezmer Orchestra, qui est un orchestre spécialisé dans l'animation de cérémonies juives. Et puis l'entité violoniste de mariage, où David intervient seul ou en duo avec ses amis harpistes ou pianistes. Je mettrai toutes les références en description de cet épisode pour que vous puissiez mieux découvrir ces univers. Bref, je reçois aujourd'hui un prof hyperactif assumé. David Amselem, bonjour.
Bonjour.
Si vous deviez me conseiller un album de musique, un film ou une série ou les trois, ce serait quoi ?
Un album, a priori, je pense que ça serait un album de Didier Lockwood, qui est un violoniste de jazz, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année dernière, à 62 ans, et qui a poussé assez loin le travail sur le violon et les musiques improvisées.
Merci pour ce conseil, je suivrai dès demain. Ouais. Quel regard portez-vous sur votre enfance, David ?
Alors là, c'est loin, même si je suis pas si vieux que ça, j'ai 47 ans. Une enfance assez joyeuse, assez insouciante, on va dire, et puis assez chantante. J'aimais bien chanter quand j'étais très jeune. Et puis effectivement, aussi assez rapidement déjà, dès l'enfance, le virus du violon était là. et donc, alors même s'il a eu des phases où il était moins présent dans mon parcours, très jeune, il a quand même fait irruption. Je devais avoir 5-6 ans.
Prof, etc.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ?
En tant qu'élève, alors ça serait en seconde, la découverte du théâtre avec un prof, Monsieur Bondou, je me rappelle. Monsieur Bondou qui était prof de français au collège Turgot, au lycée Turgot, et on avait monté une pièce de théâtre hein, dans laquelle j'avais un rôle parmi d'autres. Mais voilà, c'était aussi une entrée en scène, sur la scène, qui était très jouissive pour moi à l'époque.
Vous avez été quel genre d'adolescent, justement, à cette période des années collège, lycée ?
Encore une fois, je crois que le violon était assez présent, ce qui fait que à la maison, j'avais tendance rapidement à m'isoler dans ma chambre pour pratiquer. Et après, je vais avec mes amis, On avait pas mal. Alors c'était, je partageais pas mal de passions avec eux, mais le violon, ça restait quelque chose d'assez isolé. Disons qu'avec mes amis au collège, c'était des virées en patin en roulette, en roller, comme on disait. Et donc voilà, je passais beaucoup de temps à faire du roller dans les rues de Paris avec des amis. Donc voilà, à la fois un peu, enfin cette pratique sportive et assez. Enfin, où la liberté prend tout son sens, quoi. Où on se balade dans les rues de Paris, on s'assoit sur le bitume, etc. Et puis à côté de ça, la pratique du violon qui était aussi importante à la maison.
Je le disais dans votre portrait, vous vous produisez dans trois formations différentes. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix?
Alors, les trois formations, c'est un parcours. Alors, avant de travailler au sein de ces formations que j'ai montées, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur les bateaux parisiens. Donc en fait, mon parcours est quand même très lié à Paris parce que j'aime beaucoup cette ville. Et alors j'ai eu le privilège pendant pas loin de 10 ans avant de monter ces formations de travailler sur des péniches qui faisaient des croisières sur la Seine. Et donc déjà d'avoir une pratique professionnelle de l'instrument. Et donc après ce passage sur les bateaux d'une dizaine d'années, j'avais envie aussi de monter des formations. Et puis ça correspondait aussi avec mon goût pour monter des sites web, enfin fabriquer des sites web. Et donc dans un premier temps, c'était l'idée de faire des mariages avec ce groupe de jazz manouche qui s'appelle Just for Cab. Les mariages, on les faisait souvent le samedi, et je me suis aperçu que c'était quand même dommage de pas pouvoir travailler aussi dimanche. Donc je me suis intéressé de très près à la musique juive. En plus, je m'appelle David Amselem, donc même si je n'ai pas une pratique religieuse en soi, disons que la musique étant très présente dans les fêtes juives, je me suis intéressé très près à ce répertoire pour ensuite travailler le dimanche, puisque c'est souvent le dimanche que les personnes de confession juive se marient. Et puis après, en fait, je crois que le troisième site qui m'amène à faire de la musique un petit peu en solo ou avec des harpistes, je crois que c'est parti vraiment de l'idée de faire un site, voilà, un site web de plus. Et en fait, avec ces sites web, c'est ça qui me permet de trouver des prestations et de vivre aussi de ce métier.
Prof, etc.
Alors souvent, les musiciens personnifient leur instrument en lui parlant, en lui donnant un nom. Pour vous, qu'est-ce qui représente ce violon?
Alors le violon, beaucoup de choses. Déjà, c'est un moyen, c'est comme la pratique du yoga, je pense. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me retrouver. Aussi, alors même si j'aime beaucoup Paris, c'est quand même une ville qui est souvent assez stressante, où il y a une énergie parfois très positive et puis parfois plus harassante, on va dire. Et le violon, ça me permet vraiment de me retrouver face à moi-même, face à la musique, à l'instrument. Donc ça représente déjà cette possibilité de se retrouver, de se recentrer un petit peu sur quelque chose qui m'accompagne maintenant depuis de très nombreuses années. Donc je crois que c'est surtout ça, en fait, qui mon attachement à cet instrument par-delà, quoi. C'est une façon de tout oublier aussi, c'est-à-dire quand il faut commencer à travailler une pièce ou travailler un morceau, c'est vraiment se concentrer complètement sur cette pièce, sur ce morceau. Et ça implique aussi d'être concentré sur ses gestes, sur soi, quoi. Voilà, sur son corps. Voilà.
Est-ce que vous parvenez à établir des ponts entre votre métier d'enseignant au collège et celui de musicien qui se produit sur de nombreuses scènes?
Oui, déjà les élèves ont la chance pour le coup d'avoir un professeur qui a une pratique vraiment régulière de l'instrument, ce qui n'est pas toujours le cas en éducation musicale. Après, il y a plein d'autres qualités à avoir quand on est prof de musique, autre que celle de pratiquer un instrument, mais celle-ci est quand même assez importante quand même. Et donc, alors moi, je pratique le violon, mais aussi le piano, le ukulélé, la guitare. bientôt la mandoline. Donc voilà, j'essaye de varier les couleurs. Donc ça, les élèves et le son, les vibrations de chaque instrument, les élèves les reçoivent. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus. Et puis, donc oui, il y a beaucoup de passerelles. Déjà, effectivement, j'enseigne la musique. Donc le violon, la musique, ça reste quand même toujours dans cette même sphère.
Alors, j'ai quelques souvenirs de mes années collège et des cours de musique. Et à l'époque, c'était souvent le théâtre de nombreux chahuts, sans doute parce que notre musique, celle que nous écoutions, n'était jamais évoquée en classe. Ça se passe comment aujourd'hui l'éducation musicale au collège?
Alors, ça peut se passer et ça se passe souvent très bien. Après, bah, comme dans toutes les matières, je pense, il peut y avoir en fonction. Alors moi, je suis ce qu'on appelle anciennement TZR, donc titulaire sur zone de remplacement. Donc j'ai tendance à changer d'établissement tous les ans, alors par choix. Et donc j'ai l'opportunité de voir vraiment plein de profils d'élèves différents. Et donc, globalement, bah, en plus avec le temps, j'ai l'impression que ça se passe de mieux en mieux. Parce qu'avant d'être prof de musique, je suis prof. Et donc, je pense qu'il y a, y a, y a des compétences à acquérir en termes de dynamique de classe, de groupe. Voilà, être capable de mettre ses élèves au travail. Et ça, je pense que voilà, c'est fondamental. Et donc, après la musique, finalement, enfin, c'est quelque chose qui vient un peu après, à mon sens. Et donc, si on arrive, voilà, à créer une bonne dynamique de classe et voilà, avoir la confiance des élèves, on peut les amener un peu où on veut après. Donc après, le répertoire, je pense que c'est vraiment quelque chose de secondaire. Donc je peux très bien travailler avec mes élèves des pièces des années 70, même des pièces du Moyen Âge, pourquoi pas. Le plaisir de chanter et voilà le plaisir de bien chanter, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se communique. Et donc je pense que moi aussi, enfin effectivement, quand j'étais collégien, lycéen, enfin collégien surtout, les cours de musique, ça pouvait être aussi un peu la récréation. Mais moi, je revendique ce côté un peu récréatif. Alors après, il faut que ça se fasse dans des règles, évidemment, et à respecter par les élèves. Mais ce côté où voilà, il y a quand même une part de liberté, d'expression. Je trouve que c'est important de garder en tous les cas cet aspect-là. Sans évidemment que ce soit le chahut, etc. Ça, effectivement, c'est à proscrire. Mais bon, après, je pense pas qu'il y ait une corrélation entre le répertoire étudié, vraiment, et puis la confiance qu'on peut avoir de la part des élèves pour les amener là où on a envie de les amener musicalement.
Oui, c'est vrai que c'était un peu mon interprétation à l'époque, mais peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas de théorie précise là-dessus. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui souhaiteraient accompagner leur enfant dans l'apprentissage d'un instrument de musique?
Le conseil, bah, ça serait déjà de faire rencontrer l'enfant et puis l'instrument. Donc après l'instrument de son choix, tant qu'à faire. Je sais que maintenant dans les conservatoires, avant d'orienter l'élève sur un instrument particulièrement, il a la possibilité d'en étudier deux, trois, enfin en tous les cas de se rapprocher de plusieurs instruments pour voir pour lequel il a un coup de cœur. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis après, bah, effectivement, c'est bien d'être accompagné. Donc d'être accompagné soit par un parent s'il a la chance de pratiquer lui-même, et puis voir si par contre il y a des tensions entre le parent apprenant, enfin le parent qui souhaite apprendre à son enfant. Là, effectivement, c'est bien de faire appel à un tiers aussi parce que c'est toujours des relations très enfin, quand ça se passe bien, c'est vraiment super d'être aiguillé par un prof, d'être conseillé par un prof et de suivre son enseignement, un prof extérieur. Donc là, le prof, effectivement, je pense qu'il est assez indispensable, surtout entre 6, 7, 8, jusqu'à 12, 13 ans, c'est bien d'avoir un prof. Après, parfois, certains élèves apprennent de manière autonome la guitare ou des choses comme ça et développent des choses intéressantes par eux-mêmes. Mais c'est toujours bien d'être accompagné, je pense, quand même, pour un instrument.
Prof, etc.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, David?
Ris aux larmes. Alors, c'est peut-être pas la dernière fois pour laquelle j'ai ri aux larmes, mais une qui me revient là comme ça, c'est j'étais étudiant justement en conservatoire de musique et en fait je devais faire cobaye pour un concours pour des gens en fait qui préparaient un diplôme d'enseignement. Donc en fait on était élèves apprenants et donc il y avait des jeunes profs qui en direct là devaient nous enseigner des choses sur le violon et il y avait un jury qui était aussi également présent et qui effectivement jugeait le jeune prof. Et donc j'étais pas le seul cobaye, il y avait un autre cobaye et c'était un violoniste qui bon que c'était quelqu'un de très gentil mais qui était waouh, qui c'était étonnant, il avait pas vraiment un sens très musical, enfin c'était comment c'était un peu bourrin sa manière de jouer et d'appréhender l'instrument et j'ai eu un fou rire en le regardant sur ce coup-là et le jury qui était en face de moi s'est aperçu qu'il y avait enfin voilà que je rigolais vraiment, j'essayais de me retenir de rigoler et à un moment donné ça a éclaté, tout le monde alors bon sans en faisant en sorte évidemment de pas déconcentrer, de pas comment dire mettre mal à l'aise l'élève cobaye qui était là également, mais voilà c'était quelque chose qui c'était un fou rire aux larmes à cette occasion.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Un moment préféré, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'ai l'opportunité, c'est de plus en plus difficile avec les différentes obligations professionnelles et autres, mais l'opportunité de pouvoir se retrouver pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois pendant les vacances, 6 heures, dans une pièce, et puis s'enivrer de son, quoi. Voilà. En fait, les vibrations de l'instrument, c'est aussi quelque chose de, voilà, sous son épaule, là, avoir des vibrations comme ça, avoir du son, faire du son, en fait, c'est super jouissif. Et donc, je crois que c'est le moment préféré de ma journée quand je peux enfin me consacrer à ça.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Alors, l'une des valeurs, ça, je pense que c'est aussi le partage. Alors, le partage justement de toutes ces pratiques, effectivement, dans une chambre ou dans un bureau. La possibilité de partager. Là, ces temps-ci, en temps de Covid, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer en maison de retraite. C'est une chose qui m'était assez rarement arrivée. J'avais joué un petit peu dans des hôpitaux pour enfants, des choses comme ça. Mais là, j'ai eu l'occasion de le faire ces derniers temps et je voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Enfin, c'est cette notion de partage. J'ai eu l'occasion, dans l'occurrence de faire une prestation donc pour des personnes âgées et il y a un vieux monsieur qui est venu vers moi en fauteuil roulant qui m'a demandé s'il pouvait en m'emprunter mon violon et qui a commencé à jouer qui a commencé à jouer alors et c'est revenu petit à petit parce qu'en fait il a pas dans sa chambre là il a pas l'occasion d'avoir un instrument et c'est quelqu'un qui a fait du violon pendant longtemps et donc c'était des moments très forts pour moi de voir son visage qui s'illuminait à 90 ans passés et de voilà de pouvoir pratiquer comme ça, puis devant les autres pensionnaires qui étaient là également, qui ont regardé un peu ce vieux monsieur autrement. Donc c'est oui, c'est le partage, que ce soit donc dans maison de retraite ou sur une scène ou lors d'une cérémonie. Encore une fois, ce partage-là, on ressent en fait quand on joue, on ressent aussi ce que les autres ressentent à ce moment-là. Ça peut être alors parfois ça peut être de l'ennui, ça peut être bon, assez rarement, mais ça peut être aussi ça. Puis très souvent c'est des émotions fortes quoi, parce que c'est des gens parfois qui se marient, donc lors de cérémonies il y a déjà tout un poids d'émotions émotionnelles qui est là et donc on ressent tout ça et on contribue, on participe à ces moments. Donc c'est vraiment super super chouette.
quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot musique?
Bah, je pense que c'est justement, j'allais dire le partage, mais en fait, il y a tellement, ça, la musique, c'est ça. Encore une fois, ça comprend plein de choses très très différentes. Justement, un travail sur soi, une ouverture sur les autres. Donc, c'est compliqué. Un seul mot, ça serait compliqué, mais bon. Oui, le partage, je pense aussi, parce que le partage, c'est avec le public, mais c'est aussi avec d'autres musiciens. Donc, j'ai des amis que je connais depuis l'enfance, etc. Et j'ai des amis musiciens, c'est-à-dire c'est pas forcément des gens avec qui je peux avoir humainement a priori beaucoup de points communs ou de mais quand la musique va être là, ça peut être très chouette. Donc, oui, c'est le partage, je pense, qui va bien avec ce mot.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Waouh, un peu fier. La compétence. La fierté, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui me définisse trop, parce que après, est-ce qu'il y a quelque chose qui me, une compétence?
C'est pour ça que j'ai dit un peu fier.
Un peu fier, ouais. L'écoute, je pense que c'est l'écoute en général. Alors, je sais pas si ça, c'est pas forcément quelque chose qui me rend fier, mais être capable de bien écouter les gens, et puis pas trop. Alors ça me rend pas fier non plus, mais pas trop parler et être vraiment à l'écoute des gens. Je pense que du coup les gens parfois vous regardent autrement pour ça.
Prof, etc.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui?
Alors là, ça serait quelqu'un que pour qui j'ai vraiment de l'admiration. Alors du coup, ça pourrait être quelqu'un. Alors ça serait un musicien, je pense. Et je pense que ce serait un musicien, forcément pour qui j'ai de l'admiration. Après, il y a des musiciens pour qui j'ai de l'admiration qui ont des parcours et des profils très différents et des appréhensions de la musique très différentes. Alors je pense que ça serait plutôt. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux musiques improvisées aujourd'hui. Même si j'ai fait des études de musique classique, mais bon, en musique classique, j'ai eu un parcours qui est pas exceptionnel, hein, mais qui, bon, voilà. Et donc, j'aimerais bien peut-être partager l'expérience de quelqu'un qui connaît des grands concertos de musique classique, des œuvres qui durent parfois 30 minutes, et être dans leur corps, dans leur esprit, pour comprendre comment ils peuvent appréhender des œuvres qui sont souvent à la fois virtuoses, complexes à retenir, etc. Ça c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, parce que par ailleurs, et notamment, alors un musicien, je pense un musicien particulièrement qui s'appelle Maxime Wengerhoff, qui est un violoniste classique de ma génération, qui doit avoir une quarantaine d'années aujourd'hui, et qui a joué tous les grands concertos classiques, Mendelssohn, Brahms, etc. Et donc, ce musicien un jour s'est présenté dans une école de jazz avec son parcours de musicien incroyable, et à des choses très simples, il n'était pas capable de les faire, comme par exemple jouer et taper du pied, taper une pulsation avec son pied. Et donc, ça m'interpelle, parce que je me dis comment quelqu'un qui peut aller si loin dans l'expérience musicale. Peut avoir du mal à des difficultés à faire des choses aussi simples que battre du pied en jouant une mélodie au violon. Donc voilà, je serais intéressé pour effectivement partager le comment dire le l'avis de ce violoniste qui est Maxime Wengerhoff.
Comment définissez-vous le succès?
Ah, le succès. Disons que effectivement le succès, on le voit quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, parce qu'effectivement il y a souvent les mêmes noms qui reviennent, les mêmes artistes qui reviennent. Après, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes que je croise effectivement qui n'ont pas du tout la chance d'avoir accès à des médias très grand public, mais qui font des carrières tout à fait, enfin plus qu'estimables, hein, tout à fait brillantes quand même. Et donc, le succès, c'est un mot quand il peut vous tomber dessus, tant mieux, mais je crois qu'il faut rien attendre de ce côté-là, et on peut vivre très heureux sans avoir ce succès médiatique, on va dire.
arrive bientôt à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années ?
Alors, pour les deux prochaines années, déjà qu'on puisse arriver au bout à bout de ce virus, qui là pour le moment fait que on peut difficilement se produire en tant que musicien, soit sur scène, soit pour différents types d'événements. Voilà. Donc ça, effectivement, ça serait bien qu'on puisse reprendre une activité musicale, en tous les cas comme celle qu'on avait avant ce Covid. Et puis sinon, continuer à la fois, moi, être heureux, en tous les cas, d'être à la fois prof, c'est-à-dire partager avec des élèves cet amour de la musique et puis les expériences autour de la musique, puisque c'est un petit peu ça l'idée. Et puis poursuivre un parcours de musicien qui me permette de continuer à vivre de ce métier, et puis de rencontrer aussi, de faire des belles rencontres pour les prochaines années. Oui.
Merci David d'avoir accepté de réaliser cet épisode en ma compagnie.
Merci.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.